Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite introduction à l'autostop pour les gens qui n'en ont jamais fait. Donc, le pouce, comme on dit au Québec ou au Canada français, on allait faire du pouce. Alors, c'est une façon de voyager, de se déplacer en voiture. En général, on parle de ça pour les voitures ou les camions, donc en véhicule routier sur la route sans payer. Et on pourrait dire que c'est une forme de covoiturage ad hoc. Dans le fond, on n'est pas organisé à l'avance, mais on va covoiturer avec des gens qui se déplacent, qui font déjà un trajet, qui ont des places disponibles dans leur véhicule et qui sont prêts à nous prendre, bon, gratuitement pour le. La définition elle-même du pouce, là, c'est normalement, il n'y a pas de transaction financière. Il y a plusieurs techniques. Je suppose que beaucoup des auditeurs ici ont déjà vu, au moins peut-être pas à Iqaluit, mais dans le sud, des gens sur le bord de la route avec le poing fermé, le pouce tendu et un sourire. En tout cas, s'ils n'ont pas de sourire, d'habitude, ils se vont prendre pas mal moins vite. Donc, il y a une méthode qu'on appelle l'autostop passif. L'autostop passif, c'est quand on se tient en bord de route et qu'on signale au chauffeur. En Amérique du Nord, le signal, c'est toujours le pouce levé. C'est pour ça qu'on dit faire du pouce. Mais en Europe, on appelle ça plus l'autostop. Et c'est pas. Là, en Europe, ça donne que c'est aussi de lever le pouce. Mais il y a beaucoup de pays, en Asie particulièrement, où ce geste-là serait vu comme étant très impoli ou choquant. Et ce qu'on fait, on fait un signal avec la main vers le bas ou encore la main à 45 degrés en Israël. Ça dépend d'un pays à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'autostop passif. On se fait voir sur le bord de la route. On signale notre direction parfois à l'aide d'un panneau et on essaie de convaincre avec un sourire très charmant le conducteur de nous prendre. L'autostop, c'est dangereux de la même façon que traverser la rue, c'est dangereux. Seulement, on n'est pas imbécile, donc on ne traverse pas la rue sans regarder des deux côtés, sans faire attention qu'il n'y a pas de voiture qui s'en vient. De la même façon qu'on utilise son intelligence pour éviter ou minimiser les risques dans les situations dangereuses, on fait la même chose lorsqu'on prend des risques comme faire de l'autostop. Donc, prendre sa voiture, c'est faire le risque d'avoir un accident, c'est prendre ce risque-là. Mais faire de l'autostop, c'est aussi le risque d'avoir un accident de voiture, mais maintenant aussi avec le risque de faire des rencontres qui soient moins plaisantes que d'autres. Donc, on utilise son intelligence pour diminuer le risque en prenant certaines précautions, en étant particulièrement alerte. La légalité de l'autostop varie d'un pays à l'autre et d'un type de route à l'autre. Je vais prendre l'exemple du Canada. Au Canada, il est interdit pour un piéton de se trouver sur les voies rapides. Donc, en général, on parle des autoroutes en tant que telles, là. Donc, où on a le petit panneau qui dit, bon, ben, à partir de maintenant, les piétons sont plus permis, les vélos sont plus permis, tout ça. Donc, il est interdit pour un piéton de se trouver là et donc de faire du pouce. Par contre, toutes les routes secondaires, les routes nationales, provinciales, territoriales, elles permettent, à condition qu'elles ne soient pas une voie rapide où officiellement les piétons sont interdits, il y a moyen de se mettre en bord de route et de faire un signal. Cependant, j'y rajoute un bémol, donc, et ça, c'est un peu ce qu'on va trouver dans toutes les législations du monde. Il y a soit une interdiction pour le piéton de se retrouver à cet endroit-là, soit une interdiction pour une voiture de s'arrêter à un endroit-là. Donc, sur l'autoroute, c'est un peu la même chose. À moins d'avoir une excellente raison de s'arrêter, c'est pas permis de s'arrêter sur l'accotement pour regarder les orignaux ou regarder passer le train, là. Donc, c'est un endroit qui est dangereux, même pour un arrêt, donc on le fait seulement en cas d'urgence. En cas de problème technique, en cas de panne. Puis en général, à ce moment-là, il faut aussi signaler qu'on est arrêté avec, si possible, des fusées éclairantes, des choses en bord de route. Donc ça, c'est une autre situation où il n'est pas permis à l'autostoppeur de solliciter des transports. Si pour une voiture qui veut me prendre, c'est interdit de s'arrêter pour me prendre, alors moi, je l'incite à faire une conduite dangereuse si je signale à cet endroit-là, même si pour moi, c'est permis d'être en bord de route. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Il existe une troisième raison pour laquelle ce serait interdit de faire l'autostop. Et ça, c'est très, très rare. C'est dans certaines législations des États-Unis. C'est qui est carrément écrit dans la loi. Il est interdit de faire du stop sur tel et tel type de route. Donc, moi, je dis beaucoup le stop. J'ai passé beaucoup de temps en Europe. Je vous avertis, mais c'est vraiment faire du pouce, là. C'est la même chose. Seule petite différence, tout à l'heure, je te parlais d'autostop passif. Il existe une autre méthode, c'est l'autostop actif. C'est d'aller dans les truck stops, les endroits où il y a les stations-service et qui sont sur la voie, mais pas directement sur la voie rapide. D'habitude, c'est une sortie, hop, les stations-service. Et on peut aller solliciter activement les gens en leur demandant, excusez-moi, vous iriez pas vers Montréal, par exemple, vous iriez pas vers Toronto. Et à ce moment-là, on a une interaction humaine qui souvent rassure les gens beaucoup plus que de juste voir quelqu'un. Et surtout à 120 km/h, là. Ouais. Bon, c'est pas parce que c'est pas légal de faire poussent sur l'autoroute qu'il y a personne qui le font. Les Néo-Brunswickois qui nous écoutent sauront qu'il y a bien du monde qui font du pouce sur le highway. Là. C'est même difficile de ne pas se faire laisser directement sur le highway quand on est au Nouveau-Brunswick parce que c'est très ancré dans la culture, même si c'est illégal. C'est toléré en général. C'est beaucoup moins le cas au Québec, par contre, ou même en Ontario. C'est moins toléré. Bon, c'est illégal partout au Canada sur les voies rapides, comme je disais, mais on va se faire ramasser beaucoup plus rapidement par la police ou par Transport Québec ou l'équivalent ontarien. Là. J'ai eu des contacts beaucoup avec les policiers. En général, pour moi, ça s'est produit plus en Europe et c'est souvent parce que, bon, ce qui est toléré au Québec et en Ontario aussi, c'est de faire du pouce dans l'entrée d'autoroute à condition qu'il y ait suffisamment d'espace pour la voiture de s'arrêter en toute sécurité. Donc ça, c'est toléré. Il y a certains policiers qui vont faire plus de zèle, mais en général, c'est permis. Ils comprennent que la pratique est quand même vivante, même si on n'en voit pas de façon régulière de nos jours au Québec. Là, c'est plus les années 70 de ce côté-là. Mais ils savent que ceux qui se placent là n'iront pas sur l'autoroute. Donc, c'est des gens qui sont déjà conscientisés là, à la sécurité routière. Par contre, j'ai été dans une situation où, dans les environs de Rimouski, par exemple, plus Rivière-du-Loup, où là, dans le milieu de nulle part, à Saint-Michel-des-Saints, la sortie, Iberville-Saint-Michel-des-Saints, il y a personne qui passe. Après 40 minutes, moi, je me suis lancée sur l'autoroute, donc à un endroit où c'était quand même, je le jugeais sécuritaire. Et là, il y a quelqu'un de Transport Québec qui s'est arrêté. Il dit, bon, j'ai failli appeler à la police, mais finalement, je vais t'amener à la prochaine sortie, je vais t'amener à Montmagny, ou je sais pas trop. Puis, en général, les policiers collaborent beaucoup avec les autostoppeurs, surtout dans les pays plus pauvres, l'Amérique latine et tout ça. Les douaniers aussi sont en général très, très collaborateurs là, pour ça, là. Ils donnent un coup de main. C'est arrivé quelques fois où je me suis retrouvée... Dans les premières années où j'ai fait de l'autostop, c'était plus de l'inconfort qu'autre chose. Donc, c'est des gens qui m'ont semblé déplaisants ou qui m'ont amené vers des choses qui ne m'intéressaient pas, vers des sujets de discussion inconfortables. En général, les gens sont faciles à saisir. Là. On peut s'imaginer un peu quelles sont leurs intentions. Par contre, il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est moins clair et c'est ça qui rend l'autostop peut-être dangereux. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'autostop, bon, qui ne sont pas nécessairement en profondeur, mais qui donnent une bonne idée des éléments qui influencent la sécurité chez les pousseux. Et entre autres, le fait d'être une femme seule, c'est sûr que ça augmente le risque. Le fait de faire du pouce la nuit augmente le risque drastiquement. C'est-à-dire qu'après 6-7 heures le soir, les statistiques disaient qu'il y avait 90 % des agressions qui se passaient en soirée et la nuit. Une des raisons, c'est que ce n'est pas les mêmes genres de personnes qui se baladent la nuit. Le jour, on trouve beaucoup de gens, des commis voyageurs, des professionnels qui s'en vont à des réunions, rencontrer des clients. Et ces gens-là, quand ils se déplacent, ils sont en général seuls dans leur voiture. On n'a qu'à penser à Québec-Montréal, le film. Les gens, ils ont plusieurs raisons, mais c'est rare que les gens qui me prennent, ce soit des couples ou des gens qui ont déjà organisé des covoiturages. Ça arrive, mais c'est plus rare. Donc, en général, ce sont des personnes qui sont seules dans leur voiture, qui ont envie de compagnie pour un trajet qu'ils doivent faire de toute façon. Le soir, c'est des personnes qui se déplacent pour se rendre dans leur famille ou chez des amis. Parfois, ils n'ont pas nécessairement de but précis. Il y a plus d'alcool et de drogue, en général, qui sont impliqués dans la vie sociale des gens à ces heures-là. Et donc, si on choisit de faire de l'autostop, de faire du pouce le soir, on s'expose à plus de risques. Donc, sachant ça, on peut prendre des décisions plus éclairées pour assurer sa propre sécurité en fonction de ce qu'on est capable, nous, de faire. D'autres principes de sécurité, si moi, j'ai pris de l'alcool ou des drogues, je me mets énormément à risque. D'autres facteurs intéressants, c'est qu'on dit que il y a très, très peu de psychopathes qui sont sur les routes. Si je fais mon jogging, je suis autant exposée à un psychopathe que si je fais du pouce. Et donc, en gardant ça à l'esprit, on se rend compte que le risque d'incident ou de mauvaise rencontre est assez minime. Sauf que, il y a quand même une certaine dose de criminalité qui n'est pas faite par des psychopathes, qui est faite un peu une question de crime d'opportunité, si on veut. Et là, quand je parle de criminalité, je parle pas nécessairement de viol, mais je parle d'harcèlement sexuel ou de risquer de se faire voler ou des menaces ou des choses comme ça. Et une des conclusions des études qui ont été faites, c'est que la grande majorité des incidents se bâtissent au fil des discussions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intention malsaine au départ, mais au fil de l'interaction entre le pousseux et le conducteur, il y a eu des opportunités d'entrée, là, des moments où la discussion, elle a dérapé, elle a glissé et qu'il y a eu, on a été perçu comme une victime potentielle ou on a été ciblé comme étant quelqu'un qui était facile à escroquer. Donc, c'est un outil de développement personnel d'une certaine façon, parce qu'on apprend à être extrêmement à l'écoute de l'autre. Si on est un pousseux, un tant soit peu consciencieux, on va vouloir s'assurer que l'autre personne déjà passe une belle expérience d'autostop, parce qu'on veut pouvoir améliorer la réputation des pousseux en général. Donc, on va être attentif à la discussion, aux besoins de l'autre personne, et ça, c'est quelque chose qui nous apporte dans notre vie quotidienne ensuite. Une autre chose qu'il faut faire, c'est être capable d'exprimer ses besoins, de poser ses limites. Je vais te donner un exemple très concret. C'est par exemple quand je suis dans un camion et j'ai une proposition sexuelle. Ça arrive relativement souvent. Hein. Il y a beaucoup de prostitution sur les routes au niveau des camionneurs. Donc, il y a des filles qui travaillent sur les routes et moi, en tant que pousseuse, je les côtoie. On n'a pas d'interaction directe, mais on se croise là, dans les stationnements, dans les stations-service. Et donc, ça fait aussi partie du fantasme du routier d'avoir une aventure sur la route. Beaucoup de routiers qui sont très respectueux, qui le font pas. Il y en a d'autres qui le demandent à tout hasard. Et j'ai plusieurs réactions possibles hein, quand ça m'arrive. Je pourrais dire « Mais là, pour qui tu te prends? » et puis me sentir super offusquée ou pas être très claire dans ma réponse et dire « Ben non, mais... » puis commencer à avoir peur. Sauf que si je fais ça, ça va se sentir, je vais perdre le contrôle de la conversation. Je vais pas mettre l'autre personne à l'aise. Je vais me poser comme une victime. Je vais montrer que s'il insiste un peu, peut-être qu'il pourrait avoir de quoi parce que mon nom est pas clair. Donc, apprendre une certaine préparation mentale, savoir que ce genre de demande-là est relativement fréquent. Donc, on est capable d'y réagir en disant, ben non, écoute, ça m'intéresse pas là, mais tu sais, je suis contente d'avoir une discussion avec toi, c'est que si on peut parler d'autre chose, ça va aller. Moi, j'ai même pris avec humour à un certain moment donné. Il y a une de mes amies qui avait répondu à un chauffeur extrêmement timide, oh non, merci, mais c'est gentil d'avoir demandé. Alors depuis ce temps-là, quand c'est possible de revirer ça à la blague pour détendre l'atmosphère, je dis, ah, c'est gentil de penser à mon plaisir, mais non, ça ne m'intéresse pas. Pas aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Donc après ça, on retourne à une discussion bon enfant. Un peu plus légère. On peut aussi diriger le sujet de conversation vers la famille, vers des sujets qui font un appel aux valeurs. On pose des questions sur sa copine, sa femme, ses enfants, des choses comme ça. Donc, on ramène l'individu auquel on est confronté, qui nous a peut-être mis légèrement mal à l'aise, à quelqu'un de plus humain, là, plus en contact avec. Les expériences sur l'autostop sont fantastiques en général. C'est des expériences humaines très, très profondes, des confessions, des choses comme ça. Moi, je vis une vie de voyageuse. Je vis une vie très différente de celle des conducteurs qui me prennent. Je suis une personne intéressante, fondamentalement, je pense. Et pour les conducteurs, c'est déjà d'être quelqu'un qui est sur la route, c'est quelque chose de curieux. Donc, j'apporte un esprit du voyage avec moi, j'apporte une ouverture d'esprit, parfois une oreille attentive pour des gens qui ont vécu quelque chose de difficile et qui ne sont pas capables d'en parler à leurs proches. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup d'hommes qui font du pouce se font faire des propositions homosexuelles. Parce que c'est pas risqué, c'est pas des gens que tu vas revoir dans ta vie quotidienne, c'est pas des gens qui vont parler de toi dans ton milieu fermé dans ta famille. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont pas prêts à recevoir ce genre de propositions-là, mais on en voit beaucoup sur la route, qui sont pas nécessairement méchantes, mais tu sais. Des gens qui essaient de vivre, en fait, des choses qu'ils n'ont pas osé vivre dans leur quotidien. C'est arrivé plusieurs fois, autant dans mes histoires à moi que dans les histoires des autres. Hein, je côtoie beaucoup d'autostoppeurs aussi. Des criminels qui ont des confessions à faire. Des gens qui ont vécu des traumatismes en allant à la guerre en ex-Yougoslavie ou en Afghanistan ou en Irak. Des gens qui ont vu des choses horribles ou qui ont vécu des sensations horribles. Une fois, j'ai été prise par un ex-soldat de la Yougoslavie. Donc, je me rendais, moi, à un mariage au Danemark. Et lui, il était danois, mais habitait aux Pays-Bas. Et donc, il m'a pris pour un voyage de 5 heures. Et il m'a mis bien inconfortable au début parce qu'il me posait plein de questions sur les armes, si j'avais une arme avec moi, si j'étais en mesure de me défendre. Parfois, quand on a des discussions comme ça, ça semble être, je suis en train de sonder le terrain pour voir si t'es capable de te défendre. Et donc, moi, ça m'est mal à l'aise. D'habitude, j'essaie de donner une réponse que les gens, ça les remet un peu à leur place. Mais lui, il insistait. En fait, c'était par pur intérêt parce que c'était quelqu'un d'assez radical qui faisait des combats même à main nue, des combats extrêmes, des choses comme ça, dans des clubs privés. Alors, très, très intéressant. D'un autre côté, quand il a été soldat en Yougoslavie, il a tiré sur d'autres personnes. Et la sensation qu'il a eue en tirant, en appuyant sur la gâchette la première fois, il a essayé de me l'expliquer à un moment donné, dans les 5 heures où on était entre 4 portes de voiture. Et c'est une des expériences peut-être à la fois des plus difficiles que j'ai eues et à la fois des plus payantes au niveau humain, des plus fortes. Et j'en garde un souvenir très, 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 très positif parce que j'ai appris quelque chose que j'espère que j'aurai jamais à vivre. Et donc, qu'est-ce que j'apporte, moi, dans ces cas-là? C'est autant une écoute que une compréhension, un non-jugement, une ouverture d'esprit. Ça peut être de la compagnie, comme tu disais. Des fois, je vends du rêve, carrément. Hein? Je parle de mes voyages, des gens que j'ai rencontrés sur la route. Et il y a beaucoup de gens, surtout au Québec. Fait, quand je suis dans mon pays, à moi, là, au Canada en général, les gens disent « Ah, oh, mais t'étais partout partout dans le monde, puis tu continues à faire du pouce ici. C'était pas juste pour l'aventure là-bas, donc tu y crois vraiment. Et tu dis, ah, j'aimerais tellement ça faire ça, mais j'aurais voulu faire ça. Sauf que j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai eu une job steady, j'ai une hypothèque. Je peux pas le faire, mais toi, tu le vis, c'est fantastique. Regarde, continue, tiens, v'là 20$. Je sais souvent, je trouve ça toujours très drôle quand ça arrive. Je te dirais que c'est un processus. Hein. On commence par peut-être avoir moins confiance en soi, être moins capable de s'exprimer. Si on s'intéresse honnêtement au pouce, à l'autostop, il y a des communautés en ligne sur lesquelles on peut se trouver. Je pense notamment à la communauté du pousseux, lepousseux.com, il me semble, qui est une communauté en ligne surtout basée au Québec, mais aussi canadienne française, et puis il y a quelques Français, quelques Européens qui s'y tiennent. C'est des forums de discussion où on peut trouver des partenaires d'autostop pour commencer. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir quelqu'un à leur côté d'expérimenter pour les roder un peu là, au départ, les lancer sur les grands principes de sécurité. Et puis chacun, après ça, a ses propres recommandations, ses habitudes. Moi, j'ai même des superstitions au niveau de l'autostop, des habitudes. Par exemple, je refuse pas plus de 3 fois quand il y a quelqu'un qui va pas dans la bonne direction. Parce que s'il y a eu 3 personnes qui sont arrêtées, qui m'ont proposé des lifts pour ailleurs que l'endroit où je vais et que ça me tombait pas bien, je me dis, il y a un problème avec l'endroit où je suis. Je peux à négocier un endroit où je pourrais être mieux placée pour pouvoir me diriger vers l'endroit où je veux aller. Donc, c'est un processus. Quand on commence à faire de l'autostop, on n'est pas à l'aise, on ne se connaît pas autant. Si on n'a pas beaucoup voyagé déjà, c'est quelque chose de différent. Donc, il y a plus de risques quand on est débutant. On est moins en mesure d'arrêter les situations dangereuses. On projette beaucoup nos peurs aussi. Hein. J'en parlais hier. On projette ce qu'on ressent. On va avoir tendance à se dire, bon, je suis nerveuse, peut-être qu'il me veut du mal, peut-être qu'il me veut du mal. Et chaque chose qu'il va dire, on va commencer à s'imaginer, ah, il m'a invité chez lui à souper, c'est parce qu'il me veut du mal. Tandis que peut-être que l'invitation à souper était très anodine. Donc, ça dépend. Il faut être capable, à un moment donné, de laisser aller nos peurs, d'accepter cette dose d'inconnu-là. Et quand on commence à le faire avec quelqu'un d'autre qui a déjà une expérience, ça peut être beaucoup plus facile à accepter cet imprévu-là. Il y a un autre aspect à ça. Avec beaucoup de liberté viennent de grandes responsabilités. On s'en rend compte quand on voyage seul. On a la liberté de faire tous les choix qu'on veut, mais si on est pogné pour marcher pendant 20 km parce qu'on est dans un trou perdu et qu'il n'y a personne qui veut nous prendre, c'est notre responsabilité. C'est les choix qu'on a faits qu'il faut accepter. Et puis, ça nous permet peut-être de prendre la vie et le voyage, l'imprévu avec plus de philosophie. C'est une démarche qui peut apporter beaucoup à un niveau personnel et spirituel. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui en parlent, là, des expériences sur la route qui ont enseigné des choses au niveau spirituel. Mais comme qu'a pensé à Jack Kerouac et tout ça, toute la Beat Generation qui était aux États-Unis à se promener d'un côté et de l'autre, ça permet de prendre la vie avec plus de philosophie. En même temps, si on a un caractère, on a besoin de tout contrôler. C'est pas là où on va trouver satisfaction. Oui, mais il y a des facteurs comme la présence ou non de barbe qui joue, parce que est-ce qu'on a l'air pouilleux ou est-ce qu'on a l'air propre? Est-ce que il y a eu des expériences qui ont été faites même par un Français, Nicolas Guéguen, qui faisait varier la taille du buste d'une autostoppeuse à la sortie de Paris, à un endroit très célèbre où il y avait beaucoup de pousseux, justement. Il faisait varier à l'aide d'une brassière rembourrée pour faire des tests pour savoir combien de quel pourcentage de voitures s'arrêtait selon ce que c'était un bonnet A ou un bonnet C, ça changeait. Donc, l'apparence joue pour beaucoup, et pas juste la taille du buste, là. Moi, d'habitude, je cache quand même assez bien ça, mais le fait de montrer que je suis une fille, à l'avance, si je peux détacher mes cheveux, montrer des cheveux longs, ça rassure, ça fait voir déjà une image. Hein, on a 2, 3, 4 secondes pour décider si on prend cette personne-là. Je fais du pouce en Turquie, quelque chose qui est considéré comme étant assez dangereux. Il y a une fille qui a été kidnappée et tuée aussi presque exactement 1 an avant que je fasse du pouce la première fois seule en Turquie. Il y a une réalité très, très différente là-bas. Donc, il faut toujours être prête à sortir d'un véhicule. Par contre, les gens qui m'ont pris là-bas, qui me voulaient du bien, ça a été les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrés. On m'a nourrie, on m'a gâtée là, de fond en comble. L'hospitalité est incroyable. Donc, il y a cette espèce de paradoxe. Il n'est pas nécessaire de vivre des expériences traumatisantes là, ou extrêmement difficiles pour pouvoir dire qu'on a de l'expérience de l'autostop. D'ailleurs, c'est extrêmement rare qu'il y ait des expériences comme ça. Sauf que, en 7 ans de conduite automobile, j'ai été impliquée dans un accident aussi. T'sais, le risque est toujours présent et dépendamment du type de conduite qu'on adopte, autant en tant que conducteur de véhicule, que personne qui traverse la rue, comme je parlais de la gestion du risque. Qu'autostoppeur, on est dans une situation où il y a des risques particuliers. Quand on les connaît, on se met pas la tête dans le sable, on est capable de se préparer honnêtement à faire face à toute éventualité et on accepte de prendre certains risques parce qu'on pense que le jeu en vaut la chandelle.